Monsieur Pascal Jean, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Alors, avant de, évidemment de s'interroger sur le, non pas le Sénat en réalité japonais, mais plutôt sur la question bicamérale en réalité au Japon et en France, parce que il y a des problématiques qui sont communes, mais aussi des différences qui sont marquées. J'aimerais évidemment remercier les organisateurs de ce colloque et au premier chef Pierre-Yves Mangeal de m'avoir convié à cette manifestation scientifique de regard croisé donc entre deux pays aux traditions différentes mais qui s'inspirent ou en tout cas qui peuvent s'inspirer mutuellement. Et j'aimerais aussi remercier, puisque les travaux sont enregistrés, j'aimerais remercier des personnes qui, dans ma quête de renseignements sur la Chambre des conseillers au Sénat, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations en France, en réalité. Alors, je ne maîtrise pas le japonais, l'anglais, je ne garantis pas la traduction. Donc, c'est vrai que les ressources sont plutôt limitées. Et quand bien même on s'intéresse à des contributions écrites en anglais, c'est vrai que la question du bicamérisme et le droit parlementaire en général n'est pas forcément abordée, en tout cas c'est pas une priorité, on va dire, dans les manifestations et les réflexions des constitutionnalistes. Donc c'est vrai que de ce point de vue là l'ambassade du Japon en France m'a été d'un secours, en tout cas initial, on va dire comme ça. Et puis aussi le groupe d'amitié franco-japonais au Sénat, où il y a une conseillère d'ailleurs des relations parlementaires, qui évidemment m'a apporté quelques informations, ainsi que le professeur Inoue, donc de l'université de Kyushu, avec lequel on a conversé sur la question. Alors, initialement, effectivement, le thème, c'était le Sénat japonais, le Sénat étant par la dénomination au Japon, parce que c'est la Chambre des conseillers. Mais très vite, dans les problématiques abordées, dans mes recherches, je me suis aperçu que finalement, outre que le colloque portait son regard croisé, donc il y avait aussi cet intérêt-là, l'intérêt était peut-être précisément de comparer deux systèmes, deux bicamérismes, qui, en apparence, et j'essaie de les montrer, ont des points communs, mais en apparence seulement. Parce que dans la réalité, notamment dans la façon de vivre et de pratiquer le bicamérisme, il y a des différences, différences très, très marquées. La question du bicamérisme aussi, pourquoi je l'ai traité, c'est parce que elle est revenue dans l'actualité, alors j'allais dire directement en France et indirectement au Japon. Directement en France parce que c'est un débat récurrent, c'est la question du Sénat, de sa transformation, tant dans son organisation que dans son fonctionnement. Et en dernier lieu, il y a un rapport, le rapport Bartolone, qui... entend en tout cas modifier la seconde chambre française en la fusionnant notamment avec le Conseil économique, social et environnemental. Et donc c'est une vieille idée déjà qu'on a eue en 1969 avec le général de Gaulle dans d'autres circonstances, mais c'est un élément. Et au Japon, la question du bicamérisme est revenue, j'ai dit, indirectement sur le devant de la scène à travers notamment toutes les réflexions sur la révision constitutionnelle et particulièrement l'article 9 alinéa 2 où précisément l'égalité des chambres, j'y reviendrai, entre la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, a pu faire l'objet de propositions de modification. Donc c'est sous cet aspect-là, évidemment, que c'est intéressant d'y réfléchir. Autre raison de s'interroger sur la question bicamérale en France et au Japon, c'est que même si... nous avons une culture différente, une tradition différente. la République française, et notamment la Ve République et la monarchie constitutionnelle parlementaire japonaise, partagent de nombreux points communs. Alors, j'en ai relevé quelques-uns, qui ne relèvent pas tous, évidemment, de la question bicamérale, mais la Constitution de 1958, finalement, est née d'un amendement, en fait, d'une procédure de révision de la Constitution de 1946. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un petit peu la même chose au Japon, puisque c'était un amendement à la Constitution de Meiji. Et donc, il y a eu des discussions sur précisément savoir si un amendement pouvait mettre en place, notamment, une nouvelle Constitution. Donc, ça, c'est le premier point commun. Deuxième point commun, ce sont deux États unitaires. Décentralisé. Alors, c'est vrai que la décentralisation en France, c'est surtout à partir de 1982, mais au Japon, il y a eu aussi des évolutions. Je ne suis pas un spécialiste des collectivités territoriales japonaises, mais en tout cas, il y a une évolution dans les années 90. Et donc là aussi, on voit bien que ce sont deux États qui ont évolué à des temps différents, mais de façon similaire, même si on ne peut pas forcément comparer ces deux types de décentralisation. En tout cas, elles sont de nature très, très différentes. Évidemment, ce sont deux régimes parlementaires. Alors, au Japon, il n'y a pas de difficulté sur la qualification du régime parlementaire. C'est un régime parlementaire, j'allais dire, des plus classiques, monistes. En France, même si il y a toujours une discussion sur la nature du régime, ça demeure un régime parlementaire, particulier certes, mais un régime parlementaire. Et lorsqu'on en vient au Parlement, donc on a une organisation bicamérale en France et au Japon, et c'est un bicamérisme qui est globalement inégalitaire en France et au Japon, on pourrait dire asymétrique, mais qui comporte aussi des facettes où les deux chambres ont des pouvoirs identiques. Et en France comme au Japon, c'est notamment en matière de révision constitutionnelle. Donc ce n'est pas anodin, précisément, de comparer ces deux aspects-là. C'est ce qui m'intéressait de comparer et de voir la réalité, finalement, de ce bicamérisme inégalitaire. Alors, je vais privilégier trois angles pour aborder cette question. Tout d'abord, une certaine ressemblance dans l'organisation bicamérale du Parlement. Une inégalité entre les chambres que je qualifierais de faussement semblable, et enfin un bicamérisme qui est interrogé différemment en France et au Japon. Alors, le premier point, tout d'abord, une organisation parlementaire bicamérale ressemblante. De façon très, très classique, on va s'intéresser d'abord à la composition et puis à l'élection et au mandat des membres des secondes chambres. Tout d'abord, sur la composition en France comme au Japon, le nombre de membres de la seconde chambre, alors je vais peut-être les appeler sénateurs, pour, même si le terme sénateur n'est pas consciemment consacré au Japon, mais ce sont des assemblées qui sont composées d'un nombre inférieur de membres par rapport à la première chambre. Alors, au-delà de cet aspect, hein, 242 chambres des conseillers, 348, vous le savez, au Sénat, c'est pas forcément ce chiffre-là qui m'intéresse, c'est aussi le rapport par rapport à la population. C'est 242 par rapport à 127 millions. C'est 348 par rapport à 66 millions. Donc on voit bien que de ce point de vue-là, il y a une différence en réalité sur la représentation ou la représentativité des membres des secondes chambres. Et ce n'est pas anodin de le dire, notamment pour ce qui concerne le cas français, puisque régulièrement, depuis quelques années, se pose la question de diminuer le nombre de parlementaires, dont évidemment le nombre de sénateurs, s'agissant du Sénat français. Donc voilà pour la composition. S'agissant de l'élection et du mandat, alors c'est là où on voit, je ne sais pas s'il y a été, il y a eu, évidemment c'est indirect, mais il y a quand même une très très forte ressemblance. Tout d'abord, le mandat des sénateurs, donc entre guillemets, de 6 ans. Alors c'est vrai qu'en France c'est une évolution plutôt récente, parce qu'avant c'était 9 ans, mais on est passé à 6 ans, comme les membres de la Chambre des conseillers. Le renouvellement se fait par C'est un renouvellement triennal par moitié. Le Sénat est venu, peut-être tardivement, mais en tout cas, il est venu également sur ce terrain-là. Et l'éligibilité est à 30 ans au Japon et en France, même si, là encore, la France a évolué, notamment depuis une législation de 2003. Donc, une certaine... identité, on va dire, sur cette première composante du mandat et du renouvellement des secondes chambres. S'agissant maintenant du scrutin, et notamment de l'élection de ses membres, il y a une différence fondamentale. Tout d'abord, c'est que les membres de la Chambre des conseillers sont élus au scrutin universel, mais direct, alors que les sénateurs, c'est le scrutin universel indirect. Mais au-delà de ça, on peut constater les éléments suivants. 96 membres de la Chambre des conseillers sont élus à la représentation proportionnelle, 146 au scrutin majoritaire plurinominal. En France, en réalité, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a aussi un scrutin mixte, donc comme au Japon. Il y a des circonscriptions, enfin des collèges électoraux départementaux où les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à deux tours et d'autres sont élus à la représentation proportionnelle, le distinguo se fait entre 3 et 4 sénateurs. Ce qui est intéressant, je le signale, c'est que souvent on dit que le Sénat n'est pas représentatif, le Sénat français j'entends, n'est pas représentatif de la population. Alors tout d'abord, cela tient déjà au mode de scrutin indirect, mais au-delà de cette observation, plus de la moitié des sénateurs sont élus à la représentation proportionnelle. On en est quasiment à près de 60%, ce qui montre quand même une certaine représentativité, même si évidemment on peut toujours le contester. Pour le scrutin majoritaire, il est plurinominal, puisque vos circonscriptions, c'est de 2 à 10 membres de la Chambre des conseillers. Nous, il peut être uninominal, lorsque, évidemment, il n'y a qu'un seul sénateur, mais cela peut se comprendre. Et on retrouve donc des conséquences sur l'exercice, cette fois-ci, du mandat, à savoir que, d'abord, le décompte, pour savoir qui est élu, le décompte des voix se fait par nom et par liste. Et le renouvellement, c'est un renouvellement par rapport, évidemment, aux personnes élues sur la liste, que ce soit le scrutin majoritaire, d'ailleurs, ou que ce soit la représentation proportionnelle. Donc, du point de vue de la conception, j'allais dire, du Parlement, enfin, de la seconde chambre, il y a plus qu'une forte ressemblance, il y a quasiment une identité. Alors, je dirais pas parfaite, parce qu'elle ne l'est pas à cause du mode de scrutin. Mais, en tout cas, il y a une très, très forte parenté entre les deux chambres, et cela méritait d'être signalé. Dernière, peut-être, particularité, c'est, cela concerne les incompatibilités. Donc, le statut, à proprement parler, des parlementaires des secondes chambres. Au Japon, il y a une incompatibilité avec une fonction publique, y compris locale, des organismes publics locaux, qu'on soit dirigeant ou employé. Ça m'avait relativement étonné de voir les employés être touchés par ce régime d'incompatibilité. En France, ça ne concerne pas visible directement les employés, mais en tout cas tous les dirigeants, effectivement, en tout cas des entreprises publiques. D'ailleurs, il y a aussi les entreprises publiques au Japon. En revanche, il y a quand même une différence fondamentale. C'est qu'en France, le mandat de sénateur, comme celui de député, est incompatible avec les fonctions ministérielles. Alors que, j'allais dire, au Japon, ce n'est pas le cas. Même pour être ministre, le lien avec le Parlement est identique, enfin, est posé. Enfin, dernier point sur l'organisation. Parce qu'on en parle souvent, je ne sais pas si c'est un débat au Japon, mais c'est la féminisation des assemblées parlementaires. Je ne sais pas si c'est une... Je n'ai pas eu d'informations s'agissant de cette question-là au Japon, mais là aussi, il y a une certaine identité. Au Japon, c'est à peu près 20% de la Chambre des conseillers qui est féminisée pour le Sénat français. En tout cas, sur la période 2014-2017, nous en sommes à peu près 26%, 25,7%. Donc, on peut dire que globalement, ce sont deux chambres qui, du point de vue de l'organisation, en tout cas, sont assez ressemblantes. Ce qui m'amène évidemment à m'interroger maintenant sur un deuxième point, sur le bicamérisme inégalitaire. Et là, je dirais que c'est un bicamérisme, encore une fois, inégalitaire, mais faussement semblable. Je vais essayer d'expliciter mon propos. On va essayer de distinguer d'abord classiquement la fonction législative et la fonction de contrôle, puisque c'est une approche classique lorsque on traite des compétences des chambres. Alors tout d'abord, quelques données générales sur la procédure législative en France et au Japon pour bien fixer le cadre de ce bicamérisme inégalitaire. Là aussi, on trouve une forte identité, mais ce n'est pas propre à la France et au Japon, à savoir qu'il y a un certain nombre de commissions permanentes. Au Japon, elles ne sont pas forcément limitées et elles sont identifiées, j'allais dire, par rapport au ministère. Globalement, une commission permanente correspond à peu près à un ministère. En France, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a une limitation du nombre de commissions. Qui n'est pas identifié au ministère, la constitution de 1958, les constituants de 1958, voulant rompre avec une tradition, notamment de la 4e République, où précisément il y avait une identification ministère-commission, et ce qui avait contribué, d'une certaine façon, il n'y a pas eu que ça, mais d'une certaine façon, à une relative instabilité. On retrouve également, évidemment, la possibilité de commission spéciale, mais de la possibilité, c'est pas forcément pratiqué au Japon, et ça l'est exceptionnellement en France, et s'agissant des rapports entre les deux chambres, mais notamment sur le dépôt des initiatives législatives. Au Japon, il n'y a pas de priorité, sauf en matière de loi budgétaire, c'est-à-dire que les lois budgétaires doivent être déposées avant tout sur le bureau de la Chambre des représentants. Il en est de même en France, mais ça, c'est pas non plus une spécificité de la France et du Japon. On la retrouve en réalité, s'agissant des lois budgétaires, dans la plupart des États. On ajoute une autre particularité s'agissant du Sénat français. Il y a eu une évolution constitutionnelle puisque le Sénat est compétent pour examiner en premier lieu, donc par priorité, les projets de loi relatifs à l'organisation des collectivités territoriales, mais cela tient donc cette fois-ci à une différence entre la Chambre des représentants au Japon et le Sénat français, c'est que le Sénat français représente les collectivités territoriales. Mais je tiens à le dire parce que c'est pas souvent dit dans les cours de droit constitutionnel. Là, je m'adresse notamment à mes collègues. Le Sénat est représentant du peuple. C'est-à-dire qu'on ne le dit, pour ne pas dire jamais en France, mais c'est le représentant du peuple, avant tout d'être le représentant des collectivités territoriales. Et ça explique aussi pourquoi le Sénat participe, certes de façon inégalitaire, à la fonction législative et qu'il participe également à la fonction législative constituante, puisque là, il y a un pouvoir reconnu à égalité avec les députés. Et j'ajouterais que je ne sais pas comment c'est perçu au Japon, mais quand on étudie le Sénat français, on l'associe systématiquement donc à la représentation des collectivités territoriales, mais sans en tirer en réalité toutes les conséquences, ce qui montre avant tout qu'il s'agit, j'allais dire, d'un argument pour légitimer l'existence de la seconde chambre, c'est que le Sénat n'a pas de compétences particulières, sauf celles que j'ai évoquées tout à l'heure sur l'examen prioritaire des textes sur l'organisation, mais le Sénat n'a pas de compétences particulières s'agissant des textes relatifs aux collectivités territoriales. Il n'y a pas un droit d'opposition sur un texte de loi relatif à l'organisation des collectivités territoriales. Et dans les lois budgétaires, parce que je l'ai évoqué, dans les lois de finances, les dispositions relatives notamment au financement des collectivités territoriales, parce que c'est la loi de finances de l'État qui attribue, qui dote en tout cas les collectivités territoriales, finalement des besoins financiers, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Le Sénat n'a pas le dernier mot en cette matière. Or, c'est quand même essentiel dans le fonctionnement des collectivités territoriales. Donc, il y a le discours, légitimement, j'allais dire, s'agissant du Sénat, par rapport à ce qui, oui, représente les collectivités territoriales, mais avant tout, il représente le peuple. Certes, d'une certaine façon, certes, les sénateurs sont élus au suffrage universel et indirect, mais en tout cas, la Constitution française met sur un pied d'égalité suffrage universel direct et suffrage universel indirect. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de hiérarchie, en tout cas juridiquement, à établir donc entre ces suffrages. Autre point, évidemment, les membres des deux assemblées ont, en tant que parlementaires, une initiative législative, qu'il s'agit des propositions ou des amendements, avec quand même une particularité, c'est que en France, chaque parlementaire, chaque sénateur, tout comme les députés d'ailleurs, et de ce point de vue-là, il y a une égalité entre les chambres, peuvent déposer une proposition de loi en leur nom, même si, globalement, il y a le soutien du groupe, alors qu'au Japon, et ça, c'est une des particularités, le dépôt, c'est un dépôt collectif, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une initiative, mais soutenue selon les lois, soit par 10 membres de la Chambre des conseillers pour les lois ordinaires, ou 20, dès lors que la proposition de loi a un impact sur les finances publiques, voire de 50, lorsque... il s'agit d'une proposition de loi de révision constitutionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce seuil de recevabilité, finalement, des initiatives parlementaires, il se situe sur un plan en parfaite égalité avec les députés, puisque c'est exactement le double. Donc lorsque c'est 10 à la Chambre des conseillers, c'est 20 en été à la Chambre des représentants. Lorsque c'est 20, alors c'est 50 s'agissant de certains lois, mais en tout cas, il y a une relative égalité dans l'initiative entre les deux chambres. Donc, de ce point de vue-là, il y a une différence fondamentale, je trouve, en matière d'initiative législative primaire, j'allais dire, sur les propositions. Mais dans chaque système, il y a une égalité entre les champs. Mais évidemment, fondamentalement, c'est l'inégalité qui caractérise l'organisation, en tout cas le fonctionnement du Parlement. Alors, une égalité, mais qui n'est pas du tout organisée de la même façon entre le Japon et la France. Au Japon, lorsque un texte est rejeté ou amendé par la Chambre des conseillers, la Chambre des représentants peut passer outre. Vous allez me dire, en France aussi, il y a la possibilité de passer outre, puisque, hormis les questions de lois constitutionnelles ou des lois organiques relatives au Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot au terme d'un certain nombre de lectures. Oui, sauf que au Japon, la Chambre des représentants, donc les députés, peuvent passer outre une décision de la Chambre des conseillers, soit la majorité simple pour les lois budgétaires, ça on peut le comprendre parce qu'il y a urgence, ainsi que les lois autorisant la ratification des traités internationaux. En revanche, s'agissant de la législation ordinaire, la majorité requise par l'article 59, c'est une majorité de 2/3. Alors des votants, mais une majorité des 2/3 pour surmonter finalement une opposition de la seconde chambre. En France, ce n'est pas une majorité des 2/3, c'est une majorité simple donc de l'Assemblée nationale. Donc de ce point de vue-là, il y a une égalité, oui, dans la mesure où il y a le dernier mot s'agissant de la qui est donné aux députés, mais c'est une inégalité qui est peut-être plus contraignante, en tout cas sur le papier, en théorie, au Japon par rapport à la France. Donc, de ce point de vue-là, j'allais dire une relative aussi identité malgré les différences. Et évidemment, j'en viens à la question de la navette. Et là, j'avoue, j'ai été assez étonné de constater le fonctionnement très, très particulier de l'échange, du dialogue entre les deux chambres. D'abord, je vais très brièvement rappeler le système de la navette en France pour le mieux mettre en évidence les particularités de la navette au Japon. S'agissant tout d'abord des lois de finances, alors évidemment, il y a la navette et puis il y a une commission mixte paritaire qui équivaut à la commission de conciliation. Au Japon, là aussi, il y a une identité, puisque au bout d'une lecture, de toute façon, on doit arriver à un accord. Et en dernier lieu, de toute façon, c'est la Chambre des représentants qui décide à la majorité simple. Et chez nous, c'est l'Assemblée nationale avec le dernier mot. Je laisse de côté pour le moment la révision constitutionnelle. Deuxième élément, il y a la possibilité pour le Premier ministre français d'interrompre la navette du dialogue entre les deux chambres, notamment lorsque le Premier ministre décide d'engager l'urgence. Alors l'urgence, ça ne veut pas dire c'est une urgence avant tout politique plus que technique en réalité. Et il y a la possibilité, là aussi, ce qu'on appelle aujourd'hui la procédure accélérée en France, il y a la possibilité donc d'interrompre une navette entre les deux chambres. Et de façon générale, au bout de deux lectures, le gouvernement précipite le compromis, quand bien même de toute façon, il n'y a pas de compromis pour donner la priorité à l'Assemblée nationale. Au Japon, lorsqu'il y a un désaccord, la navette, en tout cas la navette, ne donne pas lieu forcément à la réunion d'une commission mixte paritaire. C'est facultatif, alors je veux dire comme en France, c'est facultatif et ce sont notamment les députés de la Chambre des représentants qui sollicitent. En réalité, la commission de conciliation, chez nous, c'est le chef du gouvernement. Donc là, ce sont les députés qui la sollicitent. Donc il peut y avoir une commission de conciliation de 20 membres. Et donc, soit il y a un compromis, soit il n'y a pas de compromis. En tout cas, ensuite, il y a une nouvelle lecture à la diète et où les amendements ne sont pas possibles. Alors en France, il y a aussi une évolution, notamment sous l'effet de la jurisprudence constitutionnelle qui limite considérablement le droit d'amendement lorsqu'un texte est issu de la commission mixte paritaire. Mais là aussi, le texte est de toute façon définitivement approuvé par la Chambre des représentants. Et il faut savoir également que lorsque la Chambre des conseillers ne se prononce pas dans un délai de 60 jours dès la réception d'un texte approuvé par la Chambre des représentants, cette dernière peut décider deux choses. Donc là aussi, c'est la Chambre des représentants qui a le dessus. Soit elle considère que ça équivaut à un rejet. Donc dans ce cas-là, on retourne à la procédure classique d'adoption en dernier lieu de la part des députés. Soit elle décide... parce que c'est équivaut à un rejet, soit elle décide de saisir, en tout cas de convoquer une commission de conciliation. Donc, lorsqu'on compare la procédure en France et en Allemagne, en France et au Japon, mis à part la question du chef du gouvernement, on est bien dans un bicamérisme inégalitaire. Sauf que, et là j'aurais besoin d'une confirmation par vous, parce que j'ai pas pu vérifier et contrôler ce qui m'a été soumis. Les commissions de conciliation au Japon sont extrêmement rares. On m'a fourni, encore une fois, je suis en point d'interrogation, ce que j'ai pas pu vérifier, j'ai pas trouvé moyen de recouper l'information. Mais s'agissant des commissions de conciliation, il y en a eu une vingtaine depuis 1947 et il n'y en a plus depuis 1993. Voilà, c'est l'information que l'on m'a donnée. Alors, ça m'a relativement étonné, mais ça peut s'expliquer pour deux types de considérations. Tout d'abord, projets, en tout cas s'agissant du gouvernement, les projets sont préparés très en amont, avant la discussion parlementaire, et c'est une sorte de coproduction législative entre les partis majoritaires dans les chambres et le gouvernement. Ce qui fait que lorsque le texte arrive finalement devant les assemblées, que ce soit la Chambre des représentants ou la Chambre des conseillers, l'essentiel du travail a été fait et, j'allais dire, la capacité d'amender même des parlementaires est relativement restreinte. Alors, au contraire, en France, elle est relativement très forte. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, ça tient à la conception du temps parlementaire. En France, le temps parlementaire, c'est un temps par session, mais sur une législature. Au Japon, il n'y a pas cette notion de législature, donc on passe de session en session, et lorsqu'un texte n'est pas adopté finalement au terme d'une session, il est réputé caduc pour la session suivante. Donc chaque année, finalement, il faut que le texte aboutisse. Même si le Premier ministre japonais a la possibilité d'étendre le temps de session, ce qu'il ne fait pas forcément systématiquement. Donc là, de ce point de vue-là, on voit bien que autant le système français joue de la navette et de la CMP pour essayer d'aboutir à un accord, donc ce qui fait que la seconde chambre correspond bien à cette idée que l'on a du bicamérisme, en tout cas en France. C'est une chambre qui améliore le texte adopté par les parlementaires, qui vient tempérer, par les députés, je veux dire, qui vient tempérer le texte voté par les députés. Donc on est bien dans cette seconde chambre modératrice, quelque part. Or, j'ai pas le sentiment, mais peut-être que vous me contredirez sur ce point, j'ai pas le sentiment que le rôle de la seconde chambre, donc au Japon, corresponde exactement à cette approche du bicamérisme, ce qui pose quand même la question du maintien, en réalité, de la seconde chambre au Japon. Puisque l'intérêt d'une seconde chambre, c'est précisément dans la discussion législative, soit d'améliorer le texte, on parle souvent de la qualité de la loi, même si on peut en discuter, en tout cas s'agissant de la France, en tout cas qui viennent tempérer les excès de la première chambre, si on peut considérer qu'il y a excès s'agissant des propositions, des initiatives législatives des députés. Donc, ce point de vue-là, c'est relativement intéressant. Et j'allais dire, il y a un dernier élément sur cette question de la procédure législative ordinaire. En France, on dit souvent que le bicamérisme est inégalitaire en matière de législation ordinaire. Bon, j'ai tenté de montrer qu'au Japon, en réalité, la question ne se posait pas véritablement parce que l'accord se fait en amont et non pas pendant, en réalité, le débat parlementaire, le temps consacré au Parlement. En France, le bicamérisme n'est pas si inégalitaire que ça, en réalité. Tout dépend de la configuration politique des assemblées. Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont dans une même orientation politique, s'agissant de la législation ordinaire, le bicamérisme, c'est un bicamérisme égalitaire, pas inégalitaire. 95% en moyenne, 95% des amendements qui sont proposés par les sénateurs sont repris tels quels par les parlementaires à l'Assemblée nationale. Donc de ce point de vue-là, on peut considérer qu'il y a quand même une relative égalité. En tout cas, le bicamérisme n'est peut-être pas aussi inégalitaire qu'on veut bien le présenter. Enfin, sur la révision constitutionnelle, là, il y a une égalité. C'est-à-dire qu'effectivement, au Japon, c'est 2/3 requis à la Chambre des représentants et 2/3 au Sénat. Et c'est vrai que la victoire du Premier ministre aux dernières élections sénatoriales a été perçue en France comme étant la possibilité pour le Premier ministre d'obtenir ce qu'on appelle la supermajorité, j'entends à la seconde chambre, et donc la possibilité de réviser la Constitution, notamment l'article 9, alinéa 2, dont on a parlé hier. Donc sur le processus constituant, il y a de ce point de vue-là une égalité parfaite qui est aussi contestée en France. Enfin, je termine, dernier point, parce que le temps m'est imparti. Donc la fonction de contrôle, on va dire que il y a aussi une similitude. Même si les membres de la seconde chambre au Japon participent, en tout cas sont invités à participer à la désignation du Premier ministre, mais ce sont bien les députés qui ont le dernier mot. Enfin, troisième point, une minute, mais je répondrai à vos questions évidemment volontiers, c'est que le bicamérisme, il est interrogé différemment en France et au Japon. Non pas dans l'existence, même si ici ou là, il y a toujours la volonté, en tout cas en France, de remettre en cause le Sénat, mais plutôt dans les compétences. Et en France, le point essentiel, c'est de savoir si le Sénat doit continuer de participer notamment à la fonction constituante, à égalité avec les députés. Et cette question-là, elle se retrouve indirectement au Japon, puisqu'il y a eu des propositions faites notamment dans les années 90, alors notamment qui ont été véhiculées par le quotidien pro-conservateur, alors celui qui a 10 millions d'exemplaires, voilà. Il y a eu un projet constitutionnel qui a été, émanant des partis conservateurs, où là, il était demandé de réformer le bicamérisme pour un Sénat avec plus de pouvoir, seconde chambre, plus de pouvoir et plus de compétences, mais également un affaiblissement de la majorité s'agissant de la révision constitutionnelle, avec une majorité simple plutôt qu'une majorité des deux tiers, je pense, dans la perspective, évidemment, de faciliter la révision constitutionnelle. Voilà, Monsieur le Président, j'aurais bien voulu continuer, mais le temps m'est compté. Je vous remercie beaucoup.